Bello bonjour à tutti et va qui l'émission de l'association Benleu et de l'Institut d'études occitanes de la Vaucluse. À ce même par là,
Maï de Cassis.
Alors oui, à notre émission...
Avant de commencer, ouais. demain, il y aura des souleaux, pas des pleuils, fara, vigne des gras et va qui. Aujourd'hui... On trouve la météo à 8 jours, à 15 jours, par heure, par localité. Et du coup, notre sujet, c'est la météorologie.
La météorologie.
Et oui. Et en plus, dans notre quotidien, ça se traduit par la possibilité de prévoir le temps qu'il fera dans un avenir plus ou moins proche, je viens de le dire. Et la météo est surtout importante pour l'agriculture, l'aéronautique, le maritime, etc.
Ah, d'accord.
Et bien sûr, il ne faut pas confondre météorologie et climatologie, parce que la climatologie consiste à prévoir le temps pour les siècles, voire les millénaires passés ou à venir.
Donc là, qui en est par là, sont que de la météorologie.
Va qui
bon. Eh bien, avant de parler de tout à coup, je vous propose d'écouter Gigi de Nice qui nous cante « Au grand soleil des Ségur ».
Un sombre jour pour étudier, travailler. Vers le nord, je me suis en allé. Faubourg de Nantes, les gens m'ont dit étonné. Mais qui tais-toi avec ton drôle de parler? You should Gigi Denis, tout il m'est dit, Gigi. Je viens de Nice, Méditerranée. Je suis Gigi Denis. On m'appelle Gigi. Veni de Nice, Méditerranée. Et voyant ça, je suis parti voyager. Et même à l'étranger, j'ai dû travailler. Pas par goût, ni par amusement. Parce que pour vivre aussi là-bas, faut de l'argent. Dans les cours de l'Alliance, j'essayais d'enseigner cette langue qu'on appelle français. Le directeur me dit, si tu veux être embauché, faut pas d'accent ni ta manière de parler. Et comment je fais? Je suis Gigi de Nice, tout midi on Gigi. Je viens de Nice, Méditerranée. Je suis Gigi de Nice, on m'appelle Gigi. Retour à Nice, on me dit que j'ai l'accent, que l'occitan sert à rien, ça ennuie les gens. À la télé, des sénateurs ont rigolé de l'indigène qui parle pas que français. Ah ça c'est sûr, je serai pas présentateur, premier ministre, président ou bien acteur. Mais je m'en fous, quand je lui dis t'y vois du bien, elle me répond en murmurant, hey you tambien. You should Gigi de Nice, tout midi on Gigi. Je viens de Nice, Méditerranée. Je suis Gigi de Nice, on m'appelle Gigi. Veni de Nice,
de la météorologie et donc un peu d'histoire même c'est le fa
l'histoire donc, de la météorologie
de la météo va qui est pas nascu de Comaco hein. Donc à Passatin la météo est considérée comme une œuvre divine sous les quelques précurseurs se sont intéressés d'une autre vieille et phénomène météorologie il y a eu par exemple une chinesse Nai Tsing Su Wen
enchanté.
13 000 avant Jésus-Christ. Et puis, il y a Gutenberg, Digré, Anaximandre, qui est au 16e siècle avant Jésus-Christ, et Aristote au 4e avant Jésus-Christ, qui écrivait une œuvre intitulée Météorologique. Alors, j'ai mes gens oubliés, parce que pas les connaissances qui ont accumulé pendant l'Antiquité au sujet de la météo, donc, et tourne à mal la religion a pris une place de maille en maille importante. À la Renaissance, les scientifiques se sont peu à peu reconnectés aux connaissances de l'Antiquité. Un maille, un vent énorme, un vent technologique, veille le jour, en aquel moment, à la Renaissance, donc, ce qui permet une amélioration force nette dans le domaine de la météorologie. Et l'hygiène a inventé des instruments qui permettent de mesurer les paramètres importants.
Voilà, et c'est ça qui va permettre en fait d'évoluer. Donc en fait, de quoi ont besoin les météorologues comme appareils? Ils ont besoin d'appareils qui vont mesurer la température, enfin qui vont donner des informations sur la température, sur la force et la direction du vent, sur l'humidité de l'air, sur les précipitations, sur la pression de l'air. Et l'ensoleillement.
Ah oui, tout ça.
Et oui. Et bon, en gros, ça, on le sait, mais durant la Renaissance, ce que tu as dit, Chantal, c'est que des scientifiques vont inventer des instruments qui vont permettre de mesurer certains de ces paramètres. Alors, d'abord, on va parler de la mesure de la température. Avant le XVIIe siècle, les scientifiques utilisaient un appareil qui s'appelait le thermoscope. Et il était inventé par le grec, déjà, par les Grecs. Et ce thermoscope ne donnait pas une température, mais donnait une variation de température.
La débute.
Voilà. Donc en fait, il permettait de dire s'il faisait plus chaud ou plus froid que le jour précédent. C'est déjà pas mal.
Oui.
Au début du XVIIe siècle, donc le thermomètre, comme on le connaît aujourd'hui, est mis au point par un ami de Galilée, pas par Galilée. Et son nom de ce monsieur, c'est Santorio. Ce qu'il faut voir, c'est que souvent on dit que c'est Galilée qui a inventé le thermomètre. Ce n'est pas Galilée, c'est Santorio. Et ensuite, bien sûr, cet appareil fut amélioré par différents scientifiques, dont Fahrenheit et Celsius, les deux, qui donnèrent chacun leur nom respectif à l'unité de mesure de la température de chaque côté de l'Atlantique. Donc Fahrenheit et Celsius.
Celsius. Et donc, un autre paramètre, la mesure de vin. En 1600, Léonard de Vinci invente la giroulette qui permet d'identifier justement la direction du vin.
La giroulette.
Donc c'est la girouette.
50 ans avant, 1450, Léon Battista Alberti a déjà inventé l'anémomètre qui permet de mesurer la vitesse du vin. Mais cet instrument fut oublié, tenez-vous bien, pendant 12 siècles. Alors, une invention importante, mais ça décousta. Et en 1664, Robert Hooke développe des variantes d'anémomètre. L'autre paramètre, l'air ambiant, donc la mesure de l'air ambiant, en 1644, Torricelli invente le baromètre. C'est un appareil qui permet de mesurer la pression de l'air. En 1780, l'hygromètre est inventé. C'est Horace Bénédicte de Saussure qui met au point l'appareil qui permet de mesurer l'humidité présente dans l'air. Et avant, d'autres scientifiques avaient inventé les ancêtres de cet appareil. Par accord, utilisant la modification du matériau en fonction de l'humidité. D'un immatériel, cambion des pèses, des couleurs, des formes, en fonction de l'humidité ambiante.
Voilà, donc on a vu la mesure de la température, mesure du vent, mesure de l'air ambiant, mais il y a aussi la mesure de la pluie. Et là, on va très loin, c'est vers 500 avant J.C., Jésus-Christ, chez les Grecs. Les Grecs étaient capables de mesurer quelle quantité de pluie était tombée. Donc c'était les pluviomètres qui sont les instruments les plus anciens. Et par contre, bien plus tard, c'est en 1680 que le physicien anglais Richard Townley invente cet appareil tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est quand même ancien. Mmh. Alors, mais finalement, malgré tout, les prévisions n'atteignent pas la précision espérée. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on faisait les mesures au niveau du sol.
Ah.
Et oui. Et ce qu'il faut voir, c'est que les mesures diffèrent d'une altitude à l'autre. Donc, les premiers relevés en altitude commencèrent grâce à des scientifiques qui montèrent au sommet de montagne pour faire des mesures. Donc, vous les imaginez, hein, ils grimpaient pour aller faire des mesures. Et puis, vint le temps des cerfs-volants pour mesurer, hein, pour mesurer dans l'atmosphère. En 1748, les premières mesures prises par le professeur d'astronomie Alexander Wilson et le physicien Thomas Melvin. En 1783, c'est un ballon qui permet de faire des mesures atmosphériques. Alors là, on va jusqu'à 3500 mètres d'altitude. C'est un ballon. Et ça, c'est grâce au physicien et aéronaute Jacques Charles. Et enfin, quelques années plus tard, en 1804, on a la première ascension scientifique en montgolfière. Et elle est organisée par l'Académie des sciences pour prendre des mesures de pression et de température. Et là, on va jusqu'à 4000 mètres d'altitude.
C'est énorme. Eh bien, écoute, parce qu'il y a un indi l'océan, je vous propose d'écouter une canson de Michel qui s'appelle « Tristesse l'océan ».
Tristesse l'océan, tristesse la terre. Si ou triste au fin, t'en fous, d'en quoi.
L'Imayung est une étape importante dans l'histoire de la météorologie. Hein, nous savons bien, les scientifiques en comprennent l'importance d'une collaboration entre des villes différentes pour prévenir l'automne efficacement. Et en 1654, Ferdinand XII de Médicis va inaugurer le premier Imayung météorologique. Une ville européenne accueille les stations météo. Florence, Boulogne, Parme, Milan, Innsbruck, Osnabrück, Paris et Varsovie. Mais la glaise, n'est-ce pas force d'accord d'y aimer tout accord? Et à quel moment? Eh bien, elles y sont gues en 1666.
Ah, mais c'est bien dommage, hein?
Et bon, qui progresse, Donc, Fuguet, finalement, perché en tourna mettre à Kermayun en fonction, perché il y a eu un drame. Défié, le 14 novembre 1854, une tempête provoque un naufrage lors de la guerre des Crimée et va causer force perte, 41 bateaux, 400 marins morts. Amen, aurait pu être prédit parce qu'il était déjà présent à quelques kilomètres d'ici, quelques jours avant. C'est bien dommage.
Et du coup, Napoléon III demande à un scientifique français, Urbain Le Verrier, de mettre en place un réseau de stations météorologiques en France afin de pouvoir anticiper les événements météorologiques. On revient au réseau. Et ce fut possible, cela, grâce à une invention récente, le télégraphe. Eh oui, le télégraphe permet maintenant de communiquer entre les différentes stations et ce réseau fut opérationnel dès 1856. Et là, on a 24 stations. Et 9 ans plus tard, en 1865, le réseau est devenu européen et il compte 59 stations. C'est important.
C'est énorme.
Et oui, et ces différents réseaux créés à travers le monde étaient indépendants les uns des autres et pouvaient donc perdre des données importantes. C'est du coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'Organisation météorologique internationale fut fondée en 1873 pour mettre en commun les prévisions.
Ah, voilà. Il y a une formation internationale.
Voilà. Et en 1950, l'OMI, donc l'Organisation météorologique internationale, est devenue l'OMM, Organisation météorologique mondiale. Donc à l'heure actuelle, c'est OMM.
Alors, OMM.
Qui montait des sciences au siècle XX. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle reprit mondial de tout ce qui est prédire et la météo, pour organiser les batailles que c'est des banaves sur le mar ou dans les airs. Un soutien financier énorme fut accordé à la météorologie. A fongu la guerre, c'est dommage. Hein. Ouais. Des scoles en vis le jour performant les météorologues. Et des instruments nouveaux furent développés. Et montant toujours maille à eau, parce qu'il y avait un visque rien à 4000 mètres.
Oui.
Alors, le 1er avril 1960, par une personne, premier lancement capital d'un satellite météorologie. Son nom era Tiros 1 et fut lancé par la NASA. Alors, fournigué dit une donade pendant 78 jours, pas longtemps. En Europe, le 23 novembre 1977, premier satellite météorologique dit le CEU, que c'est son nom Météosat 1. Les données dont mesurent des pieds l'espace permettent d'avoir une vision globale des phénomènes météo et d'obtenir des mesures bien mal précises. Un mail à quoi permet de couvrir des zones comme peau de stations météo, comme les déserts, les pôles, les océans, et d'espier 12012, une nouvelle satellite qui se sonne MSGU, permet même de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une niveau.
Oh, ouais. Pétard.
Et on va encore plus loin grâce à l'informatique.
Et
ouais. Alors, je remonte quand même un peu en arrière. En 1904, le météorologue norvégien Bjerknes, je suis incapable de dire son nom, met au point une série d'équations mathématiques pour prévoir le temps qu'il ferait. Mais là, il n'y a pas encore les ordinateurs. En fait, les ordinateurs, c'est sa tête. Hein, puisqu'il met des équations mathématiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un scientifique suédois, Rossby, simplifie ses équations et va utiliser le calcul électronique pour résoudre les équations de Bjerknes. Eh ben. En 1950, Forstorff et von Neumann présente la première prévision météorologique réalisée grâce à un ordinateur. Et cet ordinateur était nommé ENIAC. Les prévisions étaient alors fiables pour les 24 prochaines heures.
Oh là là.
C'était génial, 1950. Et pour des prévisions à 48 heures, il faut attendre 1980, 30 ans après.
30 ans.
En 2003, le super subordinateur Earth Simulator prédit la météo pour le siècle à venir. Ça a vite évolué.
Là, là, là.
Et les modèles numériques sont aujourd'hui les seules méthodes utilisées pour prévoir le temps qu'il fera. Donc depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'était un peu plus poétique à l'Antiquité finalement. Mais bon, peut-être que l'informatique c'est poétique aussi.
Oui, oui, puis est-ce pas il s'égure, hein?
Est-ce pas, ah, ben c'est sûr.
Il s'égure parce qu'il est Saint-Ganave avant dit la météo. Oui, ah, mais... ah, ça bon tout, même l'aigle qu'il y a dit les Nives. Tu te rends compte un peu,
hein? L'intérieur des Nives.
L'intérieur des Nives. Mais est-ce que connaissent bien Louvain, par exemple, dit la météo?
Oui, mais peut-être oui. Qu'il se trompe un peu quand même.
Ben, nous autres avons un vin qui se sonne Lumbistrao, mm-hmm. Et que Moussuté nous a fait une chanson sur Lumbistrao. Lugaubi provençal. Alors, va qui Lucas ai gagno. Lucas ai gagno. Ça veut dire qu'est-ce l'ai gagno?
C'est la rosée.
C'est la rosée, oui.
Le soleil, alors?
Oui, c'est le soleil. Va qui le soleil? Va qui Lucas ai gagno. L'ai gagno, c'est la rosée. C'est la rosée, c'est la rosée. Et regarde au soleil. Regarde mes lois, qui regigne au soleil.
Il soleil. Pourquoi
il rouspète.
Pas ouais.
Après tout, le monde.
En fait, c'est un râleur.
C'est un râleur qui rouspète sans raison. Voilà.
D'accord.
Elles ont réguignaire au soleil.
Ah bon.
Réguignaire au soleil, c'est un truc. Après, il y a l'outin castelleggio. L'outin castelleggio. Alors, quand il trouva un peu bizarre, parce que castelleggia, c'est en forme de château. Il est en forme de château. Mmh. Le temps est en forme de château. Ça veut dire que le temps est à l'orage. L'outin castelleggio.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Et puis, il y a une expression también qui s'est dit, la pluie de février à la terre vaut fumier.
C'est une bonne pluie.
Ouais, ouais. La pluie de février à la terre vaut fumier. D'ailleurs, à Castanada,
vint
la
vue
et regardas la nature comme espoulide. Jamais pomme de la prime passée per maritain. Jamais pluie de la prime passée per maritain.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que jamais la pluie du printemps a été considérée comme du mauvais temps. Ça amène des bonnes choses.
Ah bon?
Ça amène
ah
des bonnes choses, la pluie du printemps aussi. Et la pluie d'hiver, record d'estieu. Pluie d'hiver, record d'estieu. Et le ventour, connaissez le ventour?
Ah ben oui,
un peu.
Et le ventour a mis son capeu, la lance son manteau. La lance est une autre montagne à Costa do Ventura. Hein. Mmh. Le Ventura a mis son capeu, la lance son manteau, faut pas y en aller. Faut pas y en aller. Soleil rouge le matin, la pluie est en camin. Soleil rouge le matin, la pluie est en camin. Et le soleil qui se couche roseau, l'endemain se montrera beau.
C'est
quasiment la même cause. Soleil qui se couche en gorga, marque que l'outin va cambiar. Et per acabar, le vin est ni cassaire, ni pescaire.
Ça veut dire quoi?
Le vin est ni cassaire, ni pescaire.
Ça signifie?
Ça signifie que quand il y a du vin qui souffle, il ne faut pas aller à la pêche, il ne faut pas aller à la chasse.
La chasse, j'aurais cru que oui.
Ouais, la chasse et la truc. Il y a aussi remarqué que quand encore il y a du vin, mais les tartugues rentrent dans son stade.
Ils ne montent pas.
Les tartugues ne montent pas le vin.
Mais tu vois, les dictons, les anciens dictons, en fait, ils étaient issus de connaissances des siècles précédents,
ouais,
et des observations, et en fait, souvent, ils sont réels.
Souvent, ils sont réels. Voilà. Eh bien, un soleil qui tombe, qu'un sucre.
Ça veut dire quoi?
Un soleil qui tombe, qu'un sucre. Ça veut dire que c'est un soleil accablant.
Ah,
il t'en sucre, il t'en sucre.
Bernard, on t'arrête parce que je crois que tu en aurais à dire pour des ours et des ours.
Mais vous,
une série d'émissions.
Mais vous restez à l'ombre du boscage, mais vous restez à l'ombre du boscage avec Castagne et Vinouel qui nous cantent à l'ombre du boscage.
À l'ombre del boscage, bene d'ausi l'auboy, l'oupasse del village, s'amuse à l'antutio. Quand il y a tout au soleil, temple la luz mustus, près d'une fonte clarette, exprime ma douleur. Mon Dieu qui me souvient, del montant qu'il passat, tout n'est pas méritaine, de plus la monde ingrate. Toute la nuit je languisse, ai pas plus de plaisir. Italement souffrisse, qu'ai mai l'ai mai mouri. Ai. Non te ne passa la vita, mon merge me trahis, destreggio ne pulida, de calco me servis. Abandoné pecaire, anche este bosse giù, te ne pa più saplaire, renuncien all'amour. We'll be right back. encore toujours sensible, c'est souvent la détuse. Adieu charmant Herbeto, adieu si assagnerus, même morto soleto, plural de l'escondu.
Et bien, Vaki, après, resta à l'ombre du Buscage, et bien, lors de Sequita, avait fait l'émission de l'association Benleu et de l'Institut d'Études Occitanes de la Vaucluse, à ce ben par là.
Maïde Kasdi.